RCF.
Bonjour, vous êtes sur Maglone Hérault, la radio RCF qui accueille l'émission Éco-Protestant. Alors nous sommes au mois de janvier et le mois de janvier est traditionnellement l'occasion de prier pour l'unité des chrétiens. L'unité, ce n'est pas seulement l'espérance de bonnes relations entre catholiques, orthodoxes et protestants, c'est aussi une espérance et une exigence au sein même de chaque confession. Et au sein du protestantisme, on a souvent l'habitude de dire qu'il y a beaucoup de divisions, que c'est une sorte de nébuleuse, un univers dans lequel il est difficile de comprendre quoi que ce soit. Alors pour voir s'il y a un peu d'unité au sein du protestantisme, deux invités aujourd'hui. Tout d'abord, le pasteur Jean-Raymond Stoffacher. Bonjour Jean-Raymond.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Union nationale des églises protestantes réformées évangéliques de France à Montpellier.
Tout à fait.
Et puis François Bergougnan, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France dans l'ensemble qui est constitué de ce territoire entre Gardon et Vidourle. Bonjour François.
Bonjour, James Foddy.
Alors peut-être dans un premier temps, c'est bien de faire connaissance les uns les autres, parce que un pasteur des villes, pasteur des champs, deux réalités certainement. Comment ça se passe actuellement, les activités pendant le confinement, l'un et l'autre, Jean-Raymond?
C'est pas la moindre des choses de dire que c'est un vrai défi. Et des églises fermées pendant que nous les avons vécues, à la recherche de nouveaux types de liens, on a vu se développer dans toutes les églises, des réunions par internet, ce genre de choses. Donc c'est un vrai défi aujourd'hui, un vrai défi dans plusieurs niveaux.
Est-ce que on peut dire quelles sont les activités qui ont été maintenues d'une manière ou d'une autre?
Bah les cultes tant qu'ils ont pu, dans des formes voilà, souvent en présentiel et puis aussi avec une dimension de projection par internet, par Zoom particulièrement. Et puis un renforcement, je trouve, et c'était aussi une de mes grandes surprises, des études bibliques, avec parfois en présentiel moins de monde que par Zoom. Le confort des gens chez eux leur permet sans doute de participer à des activités comme celle-là. Et puis un renforcement aussi, en tout cas dans nos églises, sur la prière par Zoom.
François, de votre côté, les activités ont été maintenues, d'autres ont été créées peut-être?
Ben, nous avons proposé une offre globale de services à nos paroissiens, c'est-à-dire qu'avec ma collègue pasteur Ingrid Pratt, nous nous sommes partagé le travail entre des cultes vidéo et puis des cultes en présentiel depuis début décembre. Donc tous les dimanches, les personnes ont le choix entre un culte en présence dans un temple ou un culte vidéo. Toutes les activités avec les enfants ont été arrêtées et reprennent cette semaine. Études bibliques, on les a arrêtées également parce que ça concernait aussi des personnes d'un certain âge et du coup on voulait pas prendre de risque à les rassembler dans des endroits plutôt confinés.
Oui, donc on sent quand même que ce qu'il y a en commun, c'est la centralité du culte. C'est vraiment l'élément sur lequel l'énergie et l'intelligence ont été mobilisées pour maintenir ça quoi qu'il arrive finalement. Ça signifie quand même que entre églises protestantes, le culte semble être un dénominateur commun.
Ben, je crois que la parole appartient à tous.
Est-ce que, du coup, les relations avec les autres églises protestantes ont été maintenues pendant ce temps de confinement? Est-ce que les contacts avec les autres pasteurs, les autres communautés, des choses communes peut-être même ont été envisagées?
En ce qui me concerne, nous avons fait effectivement un culte vidéo avec Jean-Luc Blanc, qui est pasteur à Anduze. Et ça a été un culte que nous avons partagé avec sa communauté, la nôtre. Et c'était très intéressant de pouvoir partager ce moment-là qu'on n'avait jamais fait avant qu'il y ait le confinement.
Sur Montpellier, en tout cas, les réunions et les pastorales entre pasteurs évangéliques, protestants, etc., se sont maintenues. Mais il n'y a pas eu d'autres événements importants qui ont rassemblé l'ensemble des églises.
Alors, est-ce qu'on peut dire un peu, justement, dans les différents lieux, quelles sont les différentes composantes qui se réunissent? Alors, on a l'Église protestante unie de France, l'Église protestante réformée évangélique de France. On reparlera de ces deux institutions un peu plus tard. Mais quels sont les autres partenaires avec lesquels on a l'habitude de travailler? Sur Montpellier, je sais qu'il y a des habitudes de réunions assez fréquentes.
Oui, sur Montpellier, il y a deux instances, on pourrait dire, représentatives de la diversité évangélique. On parle d'à peu près 53 communautés locales, églises, sur Montpellier. À peu près 33 églises, j'allais dire, associés à des unions d'églises qui sont bien repérées, et puis ensemble un autre ensemble d'églises qui ne le sont pas forcément. Ça peut être des églises issues d'immigration, ce genre de choses. Il y a toute une diversité à Montpellier un peu inconnue, qui est intéressante d'ailleurs à essayer d'investir, de savoir comment on pourrait aller vers ces églises. Mais dans les deux instances représentatives, que sont d'un côté la pastorale CNEF des églises évangéliques et puis de l'autre la fraternité, il y a des relations avec l'ensemble des églises qui veulent bien participer à ces instances. Donc on parle de des églises charismatiques, des églises pentecôtistes du côté CNEF. Et puis on parle du côté fraternité, de l'église réformée évangélique, aussi des adventistes à Montpellier qui sont assez présents, et puis tout un ensemble d'autres églises qui participent activement à ce groupe.
Église baptiste, j'imagine aussi.
Alors il n'y a pas de baptiste, il y a baptistes dans la sensibilité, mais pas de la fédération baptiste qui est membre de la fédération protestante de France.
Mmh. Et du côté des Cévennes.
Alors sur mon secteur, c'est peut-être un peu particulier. En tout cas, ma connaissance du secteur est un peu particulière parce que je suis arrivé sur ce secteur que l'été dernier, et c'était la période de la crise sanitaire, et du coup, on a eu quasiment aucune activité en commun. Et les relations n'ont pas été interrompues, mais elles sont quand même réduites au minimum.
Mais par exemple, dans le pôle de la Fédération protestante de France, est-ce qu'il y a d'autres églises que les deux églises protestantes réformées?
Oui. Alors, il existe un pôle de la Fédération protestante de France qui se rencontre à Anduze et qui regroupe une petite dizaine d'unions d'églises. Il y a des adventistes, il y a les PUF, voilà. Et il y a plusieurs églises. Et il y a également plusieurs mouvements. Il y a des associations, Donc oui, cette volonté, le pôle FPF a la volonté justement de mettre en commun les énergies de chacun. Et puis c'est une sorte de vitrine aussi pour les protestants. La fédération protestante, le pôle des Cévennes, est une vitrine pour le protestantisme local.
Mmh. Oui, ce qui est un peu le cas pour Montpellier aussi, c'est être en quelque sorte représentant, ou en tous les cas vitrine vis-à-vis de la société civile, peut-être des autorités politiques, des institutions comme l'hôpital aussi peut-être, la prison.
Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, Montpellier n'est pas organisé autour d'un pôle de la fédération. Certains d'entre nous commençons à y réfléchir, en tout cas à l'imaginer. Je pense personnellement que ce serait une bonne chose, parce que justement ça permettrait une visibilité sur tous ces ministères importants, sur tous ces lieux d'interaction avec la société civile, que sont les aumôneries militaires, les aumôneries hospitalières et puis les aumôneries aux prisons, qui est sans doute de ces trois pôles les plus développés ici à Montpellier.
Alors, nous avions entendu tout à l'heure qu'il y avait en commun la question du culte, sans que ce soit une grosse indiscrétion. Je sais que l'un et l'autre, vous mettez une robe pastorale ou académique ou de prédicateur, et donc c'est le bon moment pour faire une pause musicale avec Johnny Cash et Man in Black.
Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the times. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men.
Vous êtes sur RCF Maglonero, l'émission Éco-Protestant. Nous sommes aujourd'hui avec les pasteurs Jean-Raymond Stoffacher et François Bergougnan pour parler de l'unité du protestantisme dans ce mois de janvier qui est l'occasion en général de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette première partie d'émission, je trouve, a été l'occasion d'entendre que les tonalités de vos voix montrent qu'on s'entend bien, qu'il y a un plaisir à être ensemble. C'est d'autant plus incompréhensible que finalement il y a autant de chapelles au sein du protestantisme. Comment est-ce qu'on explique qu'il y ait encore, allez, parlons de division au sein du protestantisme, alors que, bon, il n'y a pas de secret, on a du plaisir à se retrouver en fait entre pasteurs. En tous les cas, là, à cette table, il n'y a pas d'inimité, bien au contraire, il y a même du plaisir à être ensemble. D'où ça vient ce fait que, on reste chacun chez soi, et que le confinement a quand même fait en sorte qu'on soit encore chacun dans son précaré, son domaine, et que l'autre soit complètement hors de notre horizon.
Mais quand vous parlez d'unité, je pense qu'il manque un élément à l'unité. Et il faut parler aussi de la diversité de nos églises. Donc c'est une unité dans notre diversité. Et il s'agit pas d'aplanir les sensibilités de chacune de nos églises. Mais par contre, avant de parler de dialogue interreligieux ou un dialogue interéglise, il faut peut-être parler aussi d'écoute interéglise et être capable d'écouter la différence de l'autre et non pas de le juger et de le stigmatiser parce que sa pratique de la foi est différente.
Ouais, alors, je pense qu'on parlera un peu de nos différences, peut-être sur le plan un peu doctrinal et pratique, etc. Mais on le sent bien, même au sein de nos églises, il y a de la pluralité, il y a de la diversité. Entre nous, pasteurs de la même église, on a des sensibilités différentes. C'est vrai avec vos collègues Jean-Raymond. Comment on explique quand même qu'on garde des institutions séparées? Alors, je veux dire, surtout entre nos deux églises, depuis 1938, il y a quand même du chemin qui a été fait pour se reconnaître. Qu'est-ce qui nous empêche d'être dans une même union d'églises?
Moi, je pense que la diversité est constitutive du protestantisme. Mmh. Si on regarde le XVIe siècle et la naissance même du protestantisme, il s'exprime de manière diverse. Comme l'a dit mon collègue, pour autant, nous développons toujours, on peut le voir, dans les grands courants de pensée et de théologie, l'idée d'une appartenance commune. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est la recomposition du protestantisme au XXe siècle. Tous ces mouvements qui sont en train profondément de travailler notre identité aujourd'hui produisent tout de même une archipélisation, on pourrait dire. Et on le voit en particulier dans le milieu évangélique, avec ce phénomène de chapelle, de petite, même de référence culturelle, qui vient encore davantage poser la question. Nous poser la question de ce qui nous unit et de ce qui fait notre diversité et comment la gérer. C'est pas non plus là une petite question, un petit défi pour nos églises aujourd'hui. Et je crois que on peut quand même se réjouir que, en France en particulier, nous ayons une instance comme la Fédération protestante de France qui nous regroupe. Après, tout est dans le jeu entre représentation et puis communion. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut en fait parler, c'est-à-dire une théologie de la communion, qu'est-ce que c'est pour nous? Et là quand même, on peut voir qu'il y a effectivement des options qui sont profondes et qui nous appellent à des formes de dialogue, mais comme on peut aussi le constater dans les relations avec les églises catholiques, avec les orthodoxes aujourd'hui.
Parce que tout à l'heure, vous faisiez référence à ce culte que vous avez célébré en commun pendant ce temps de confinement avec le pasteur Jean-Luc Blanc. Donc ça signifie qu'il y a déjà une communion au niveau de la chair. On peut s'inviter mutuellement à prêcher dans nos églises respectives.
Bien sûr. Oui. C'est même important, je pense, pour montrer qu'on est capable de prêcher la même parole, mais d'une manière différente.
Parce que je pense que nous avons aussi en commun la centralité de la parole, la Bible placée au cœur de notre spiritualité. On peut se dire que si la prédication du culte est vraiment l'élément central du culte et que le culte est la centralité de notre spiritualité, si on peut avoir une communion au niveau de la prédication, tout le reste est possible.
Oui. Et la Fédération protestante de France met en avant en particulier l'intercommunion, enfin la possibilité de prendre la communion. Or c'est sur ce point-là en particulier que certaines églises évangéliques ont eu du mal tout récemment et qui a fait que s'est ouvert, on pourrait dire, une période de crise, en tout cas de réflexion sur le lien fédératif ces dernières années.
Alors, On sait qu'au sein du protestantisme, l'un des sujets de friction et même de heurts a été la question de la bénédiction des couples homosexuels il y a quelques années. Mais à côté de cela, il n'y avait pas, j'allais dire, une grande unité non plus, ou en tous les cas une grande proximité entre nos églises. Qu'est-ce qui, selon vous, l'un et l'autre, est quand même facteur de séparation ? Qu'est-ce qui nous maintient à distance ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans une pleine communion d'esprit, en tous les cas ? Qu'est-ce qui nous retient d'être vraiment dans la même union d'église ? Je reviens un peu sur cette question. François ?
C'est peut-être difficile de répondre d'une manière générale parce que chacune des églises a ses propres particularités. Mais je pense que déjà la lecture de la Bible peut être source de division puisqu'on peut ne pas avoir la même approche, la même lecture du texte biblique. Donc déjà, ça peut être une source de division suivant les églises. Mais
ça c'est quelque chose que vous repérez, Jean-Raymond, autour de la Bible, des difficultés à faire lecture commune ?
Oui, je l'aborderai peut-être dans une forme de... En plaçant le mot liberté. La liberté constitutive du protestantisme aussi. La liberté d'interpréter. La liberté d'utiliser sa raison pour le comprendre. Et c'est sans doute là, en fait, effectivement, dans cette distance critique que se jouent aujourd'hui les différentes sensibilités. Du côté évangélique, on mettra un accent sur une forme d'hétérodoxie, si on peut parler comme ça, ou d'orthodoxie. Et puis sur peut-être du côté protestantisme libéral, davantage un insistant justement sur cette grande liberté. On peut pas dire que tout le mouvement protestant n'est pas marqué par cette liberté. Au contraire, elle est fondamentale. Mais il y a des formes et des manières de revendiquer cette liberté face au texte biblique qui, effectivement, constituent des identités plurielles dans le protestantisme et débouchent sur ces identités plurielles. Et je pense que c'est ça, le protestantisme, en fait. C'est cette manière de le dire, cette manière de le comprendre, cette manière de l'assumer et de le vivre.
La difficulté, je trouve, c'est qu'il y a toujours une forme de défiance par rapport à la sensibilité de l'autre. Comme si il n'était pas possible de considérer que l'approche de l'autre est, si ce n'est en complément, du moins dans une tension féconde avec moi. Un peu comme les quatre évangiles sont nécessaires pour accéder au véritable évangile. Oui, François.
Il est le risque d'être dans une identité protestante, c'est de croire que notre identité détient la vérité. Et c'est ce qui rend difficile le dialogue. Parce que si je considère que je détiens la vérité, ça veut dire que l'autre ne détient pas la vérité, puisqu'il pratique différemment. Et c'est là où on a tout un travail, je pense, d'éducation de nos églises et de ceux qui les fréquentent, quelle que soit l'église d'ailleurs, de s'intéresser à l'autre comme étant quelque chose qui peut nous enrichir aussi dans notre propre foi. Et la pratique dans nos cultes, par exemple, pourquoi certaines églises font beaucoup de louanges et ne pratiquent pas toute la liturgie que nous, on peut avoir dans un culte réformé traditionnel, ça peut surprendre certaines personnes.
Sur le plan, j'allais dire, de la doctrine, de ce que l'on croit, ou j'irais même jusqu'à dire ce qu'il faut croire, est-ce qu'il y a encore des éléments qui nous séparent trop ? Des choses qui sont insupportables dans le discours de l'autre ? En toute vérité.
Non, oui, quoi. Oui et non, j'allais... je suis pas normand pour rien.
D'accord.
Mais
bon, eh bien, écoutez, je vous propose une petite pause musicale. Il semble que personne ne veuille dire quelles sont les difficultés. C'est une sorte de mariage mystique. Alors, allons-y pour les alliances de feu avec encore Johnny Cash.
Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire.
fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher.
Vous êtes sur RCF Maglonero dans l'émission Éco-Protestant. Nous parlons aujourd'hui de l'unité au sein du protestantisme, l'une des confessions chrétiennes, avec les pasteurs Jean-Raymond Stoffacher et François Bergougnon. Alors, j'ai bien entendu que vous aviez toutes les peines du monde à trouver un peu des difficultés à la vie commune. Finalement, vous vous aimez par-delà toutes les difficultés. Et c'est heureux, c'est beau, même dans une certaine mesure. Mais tout de même, est-ce que nous pouvons pointer quelques difficultés sur le plan de la doctrine, sur le plan des croyances quand même. Jean-Raymond.
Oui, pour revenir à ce qui est essentiel pour le protestant, un protestant est un pape à lui tout seul avec une Bible à la main, comme disait l'autre. Ce travail d'interprétation de l'écriture qui débouchera ensuite sur des positionnements éthiques, sur des positionnements fondamentaux, dans le rapport avec la société. C'est sans doute là que se jouent beaucoup de difficultés aujourd'hui. On a mentionné tout à l'heure, effectivement, tout le rapport aux personnes de même sexe, la bénédiction de personnes de même sexe. Il y a d'autres types de positionnements éthiques. Il y a là-dessus, je pense, aujourd'hui, des vraies distances, avec aussi, et c'est bien le problème des postures de personnes qui disent nous détenons une vérité qui est indépassable. Mais je me demanderais aujourd'hui si se joue pas non plus une grosse partie dans la sociologie. On pouvait dire que peut-être au XIXe siècle, la sociologie du protestantisme, dans sa diversité, proposait une forme semblable. Or aujourd'hui, on pourrait dire que le centre même du protestantisme, il est en train de se déplacer vers des populations, avec des influences étrangères. Si le protestant typique au XIXe siècle, c'était un homme, cévenol, éduqué, aujourd'hui, c'est sans doute une femme évangélique d'une église pentecôtiste. On voit bien aussi à quel point aujourd'hui la sociologie vient faire irruption dans la diversité du protestantisme et appelle aussi là à toutes sortes de régulations et
de réformes.
Et de réformes et d'analyses.
François ?
Je pense une des difficultés vient aussi du fait que la société connaît, je pense, très mal le protestantisme et les protestants. Et on l'a vu ces dernières semaines avec les débats politiques. Il y a des propos qui sont tenus sur le protestantisme, qui sont même par nos hommes politiques, qui sont totalement faux, qui nous concernent pas du tout, nous protestants de France, quels que soient nos protestants, notre couleur protestante. Et du coup, comme personne ne connaît le protestantisme, il y a des préjugés, il y a des a priori qui sont totalement faux et qui créent du coup des divisions.
Ce qui peut être vrai aussi au sein du protestantisme, car nous avons toutes les peines du monde à véritablement nous rencontrer et véritablement nous connaître, avec beaucoup de préjugés qui demeurent. On parlait tout à l'heure hétérodoxie, orthodoxie, libéralisme. Finalement, ça peut être aussi des étiquettes assez commodes pour se construire un ennemi qui nous permet de donner une identité assez confortable et qui nous suffit finalement pour dire qui nous sommes.
Oui, je pense que c'est aussi ça l'histoire du protestantisme, c'est de s'être construit finalement les uns à côté des autres ou contre les autres souvent. On voit ça dans le milieu évangélique, un évangélique qui n'est pas d'accord avec un autre évangélique, il quitte son église, il crée une nouvelle église. Mais au fur et à mesure du temps, effectivement, ces oppositions s'estompent. Et ce qui fait sans doute que nous vivons, en tout cas comme on le fait là maintenant, une forme d'entente, parce que plus ces oppositions sont distantes, plus on rentre dans une forme, je crois, d'écoute et de dialogue commun.
Alors, vous abordiez la question du champ politique. L'actualité récente montre qu'effectivement, il y a à la fois une méconnaissance du protestantisme de la part des responsables politiques et même des journalistes en général, qui, on le sait bien, ont toutes les peines du monde à différencier les évangélistes des évangéliques, par exemple. Mais on le voit aussi avec ce projet de loi en discussion au Parlement sur la question du séparatisme. Finalement, la réalité de chaque église est extrêmement méconnue. Et on se retrouve avec des projets de loi qui vont à l'encontre du bon sens. Et c'est peut-être sur ces terrains-là que la Fédération protestante de France trouve une véritable unité, parce qu'actuellement, le président François Claveroli parle au nom des protestants et tout le monde se reconnaît dans son propos. Et c'est vrai sur différents sujets qui montrent que nous sommes capables de faire front commun, en quelque sorte.
Tout à fait. Je crois que cette crise, parce qu'il faut bien parler de crise, c'en est une pour nos églises, c'en est une pour... j'allais dire penser et puis vivre la laïcité en France, effectivement, pointe du doigt cela. Dans la maison commune du protestantisme, oui, nous sommes réformés, luthériens, évangéliques, mais sur ces questions-là, finalement, on se retrouve sur un point commun, sur un front commun. Il n'y a pas de distance entre un, enfin, ou peut-être de manière d'un évangélique de vivre justement son rapport à la laïcité. Je ne crois pas qu'il y ait de manière évangélique de la vivre, vous voyez. On est en maison protestante, on est sur des valeurs qui sont communes et qui aujourd'hui, effectivement, doivent être défendues.
Et on voit d'ailleurs que le protestantisme est le bon élève de la République. C'est-à-dire que toutes ces mesures coercitives contre les associations 1905 visent en fait essentiellement le protestantisme et le judaïsme, qui sont les deux seules religions à vraiment utiliser le cas de 1905 et qui du coup est pénalisé, alors qu'en fait on veut faire de la régulation, disons-le clairement, sur l'islam et les musulmans en général.
Et le pasteur François Claveroli, lors de son audition récente devant la commission parlementaire, sur cette question-là justement, le disait avec force, nos églises sont des lieux où la pensée de la laïcité est intégrée, est enseignée, est transmise. Et ça, moi, ça me semble être quelque chose de très très important à dire aujourd'hui, c'est-à-dire la vocation sociale de nos églises et ce qu'elles apportent finalement à la République. Et je crois que c'est ce qui est le plus frustrant, d'une certaine manière, dans ces débats, c'est que ne soit pas reconnu, qu'on ne reconnaisse pas au protestantisme cette valeur-là, en fait, cette volonté-là de vivre une laïcité apaisée dans notre pays et en tant que religieux, en tant que religion, d'apporter et de construire l'espace public.
Et ce que vous venez de dire, je trouvais soutenu par une déclaration qu'avait fait Emmanuel Macron, je crois, en 2017, et qui disait que les protestants étaient la vigie de la République. Et je trouve ça très important par rapport à la laïcité, justement, que nous soyons capables de nous positionner aujourd'hui par rapport à tous ces projets de textes de loi qui peut-être mettent en péril certaines libertés de vivre notre foi.
Oui, parce que à la fois il y a une sorte d'accroissement de la surveillance avec vraiment une focalisation sur le domaine religieux, alors que c'est peut-être pas là qu'il y a le plus de problèmes. Et puis des mesures, je pense par exemple la mesure qui consiste à faire vérifier tous les comptes par des commissaires aux comptes, qui est extrêmement onéreuse pour des petites associations qui n'ont pas les moyens de payer un commissaire aux comptes. Et on ne demande pas à l'association de pétanque d'en faire autant pourtant. Donc il y a vraiment une sorte de faisceau de mesures qui sont extrêmement pénibles, alors que, comme vous le disiez, Jean-Raymond, le protestantisme notamment irrigue la République du fondement même de ses valeurs, parce que liberté, égalité, fraternité, c'est très paulinien, ça.
Oui.
Oui, incontestablement, il n'y a pas lieu d'en discuter. Très bien.
Une autre mesure, si je peux me permettre,
oui,
aussi, par exemple, c'est de réduire maintenant à 5 ans l'espace de validité d'une association cultuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour une église qui a 500 ans, ou même l'église catholique, qui, voilà, dont on pourrait trouver une forme de continuité, qu'elles doivent aujourd'hui, dans un temps court comme celui de 5 ans, prouver, d'une certaine manière, à la République son caractère culturel. C'est pour moi une vraie question.
Oui, parce que c'est une façon d'aller contre la liberté d'association. La liberté d'association, c'est un droit fondamental en France et, en principe, l'État ne devrait pas être le superviseur de cela. Il devrait créer l'espace légal pour que cela puisse advenir, mais ensuite, chacun doit faire sa propre régulation.
Tout à fait, oui.
Il y a aussi cette action commune qui a été menée en faveur des migrants, avec notamment des couloirs humanitaires, direction du Moyen-Orient. C'est une réussite, ça aussi, sur le plan de la Fédération protestante de France, en lien avec d'autres associations caritatives, d'ailleurs.
Oui, c'était d'ailleurs la première fois, je crois, qu'il y avait un front commun sur ces questions-là. Et on a vu, effectivement, comment elle était difficile politiquement. Et comment, grâce à des associations comme la CIMAD et beaucoup d'autres, et on a pu faire un vrai élan et recevoir un certain nombre de familles dans ce pays. C'est tout à l'honneur de la Fédération protestante de France, et je crois que c'est quelque chose qui est au cœur même d'un message pour la société aujourd'hui.
Eh bien voilà un beau message de fraternité, de responsabilité. Merci à vous deux et à le mois prochain pour une nouvelle émission Éco-Protestant. Au revoir. Counting up your meaning, counting up your debt.